Bonjour. Pour ce troisième numéro de Tous handicapés, je vais vous parler de l'inclusion. L'inclusion, c'est une notion développée par le sociologue Niklas Luhmann qui consiste à faire en sorte que chacun soit respecté et valorisé et ait les moyens de participer à la vie de la société. Que chacun ait les moyens de participer à la vie. Alors l'inclusion serait une obligation de moyens mais pas de résultats ? Vous n'êtes pas convaincu ? Bon, pourtant, vous allez voir qu'une société fondée sur un modèle d'inclusion serait déjà une belle avancée par rapport au modèle de nos sociétés occidentales actuelles. Oui, car historiquement, les minorités étaient exclues, voire ségrégées. Si des exemples sont nécessaires, on peut penser aux Noirs de l'apartheid en Afrique du Sud, aux Juifs ou aux Tziganes dans l'Allemagne nazie, ou même aux Ouïghours depuis début 2000 en Chine. Eh bien, quelles que soient les races, les religions, les sexualités, selon les cultures, on a trop souvent imposé à la minorité de se plier au moule de la société, pour s'y adapter, même implicitement. À l'époque moderne, c'est ensuite la société qui a évolué et toléré ses autres, comme une fière chandelle qui leur serait faite pour se donner bonne conscience, un effort fait pour les minorités. Cette société est construite sur un modèle d'intégration. L'intégration, c'est l'assimilation d'un individu ou d'un groupe à une communauté, dans lequel ils sont tous égaux. Mais justement, l'assimilation culturelle, ça consiste à exiger de l'étranger ou de la minorité qu'il adopte les mêmes comportements et les mêmes traditions que la population qui l'accueille. Une société d'intégration, comme c'est le cas en France, c'est donc une tolérance de la société à accepter ces minorités en son sein, comme une faveur faite à ceux qui sont différents, à condition qu'ils s'adaptent bien sûr, faut pas déconner non plus. Le problème, c'est qu'en termes de handicap, l'intégration n'est pas la solution. En effet, si elle permet à la minorité de faire partie de la société, elle n'en assure pas la totale liberté. L'intégration n'est pas synonyme de liberté ni d'égalité. Les minorités sont intégrées, mais des barrières subsistent. Les autres restent entre eux, sans pouvoir pousser les portes de la société et s'y épanouir pleinement. Un peu comme une goutte d'huile dans une casserole d'eau. Elle est là, mais seulement tolérée au sein du monde. Ainsi, la seule solution de la minorité pour faire tomber les barrières, c'est de changer, pour être assimilée et devenir un membre normal et à part entière de la société dans laquelle elle vit. Sinon, elle est condamnée à vivre dans cette oasis que représente sa communauté, pourtant si bien intégrée dans ce désert qu'est la société. Elle se risque alors à des railleries, voire des menaces, pouvant aller jusqu'à un rejet violent de son existence. Ce genre de réaction vous rappelle quelque chose dans notre société ? C'est normal. Ou pas d'ailleurs. Pourquoi cette tolérance resterait une exception et ne serait pas une normalité ? La solution serait alors une société idéale, adaptée à tous et permettant à chacun de s'y épanouir pleinement. Cucu les petits oiseaux, redescend sur terre, vous allez me dire ? Eh bien non. Parce que cette société harmonieuse ne serait pas alors basée sur un modèle d'intégration, mais d'inclusion. Cela signifie que tout le monde ferait pleinement partie de la société et pourrait y agir sans contrainte. Cette société serait adaptée à tous, que ce soit au niveau légal, social ou environnemental. Tout à l'heure, je vous disais que l'inclusion serait donc une obligation de moyens. Mais plutôt qu'une obligation, voyons-le comme la possibilité d'offrir les mêmes chances à tout le monde. Dans ma précédente chronique, je vous parlais de l'origine du mot « handicap », qui était un moyen d'égaliser les chances. Avec l'inclusion, on est en plein dedans. Mais revenons à nos moutons. L'égalité, c'est l'équivalence, l'absence de toute discrimination. C'est donner exactement les mêmes choses à tout le monde. Sauf qu'on est tous différents et que nos besoins ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'existe l'équité, c'est-à-dire une justice basée sur les droits et les chances de chacun. C'est donné à tous de manière proportionnelle et impartiale et selon ses besoins pour que le résultat soit égal. L'égalité, c'est offrir exactement la même chose à tout le monde. L'équité, c'est comprendre les gens et leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Donc forcément, on va donner un peu plus aux personnes un peu défavorisées, selon les situations. Par exemple, je vais reprendre une image que certains d'entre vous connaissent peut-être. Un adulte et un enfant veulent regarder tous les deux par-dessus un mur d'enceinte pour admirer le château de Chambord. Et on a un marchepied à notre disposition. L'égalité, c'est de ne fournir ce marchepied ni à l'un ni à l'autre, pour les traiter de manière égale. Sauf qu'au final, L'adulte peut admirer le château par-dessus le mur, mais l'enfant, non. Eh bien, l'équité, c'est de donner le marchepied à ce petit pour que les deux puissent profiter du spectacle. C'est un peu plus juste quand même, non ? Une société inclusive est donc un modèle de société d'égalité de droits et d'équité de chances. Une société sans favoritisme ni discrimination, sans privilèges ni exclusion. C'est rendre toute activité possible pour tous. Après, charge à chacun de se saisir des possibilités qui sont laissées. Mais au moins, la société rend tout possible. Encore une fois, obligation de moyens, mais pas de résultats. Le tout, c'est que la société assure l'égalité des chances, pour permettre ainsi la liberté d'être et d'agir. Que tous aient la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez donc bien que la société française ne répond pas vraiment à ces critères-là. Nos gouvernements successifs ont beau nous dire que nous sommes dans une société d'inclusion, mais c'est faux. Chez nous, c'est l'intégration qui prime, même si on veut nous faire croire le contraire. Alors, si une telle société est utopique, elle n'est pas impossible. Il faut simplement le vouloir et choisir de changer. Et en tant qu'ergothérapeute, je pense que la société a tout intérêt à changer. Je vais vous dire pourquoi. Si l'on repense à ce que j'évoquais dans mes précédentes chroniques, la santé d'un individu, c'est-à-dire son bien-être physique et mental, est corrélée à son niveau d'activité. Un individu actif est en meilleure santé que celui qui ne l'est pas. Bon. Encore faut-il que la société rende possible l'ensemble des activités de chacun. Eh bien, les minorités intégrées et non incluses dans la société sont en situation de handicap. Bah oui, elles sont limitées dans leurs activités, et malgré elles en plus. Elles ne sont donc pas en bonne santé. Sauf que la santé d'une société est conditionnée par celle des individus qui la composent. Vous voyez donc bien qu'une société basée sur l'intégration, notre société, est malade. Une société basée sur l'inclusion est alors un environnement idéal, rendant possible chaque activité pour tous les individus, et donc une société en meilleure santé. C'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est l'idéal vers lequel j'ai choisi d'aller. Bref, le changement, c'est maintenant. Vraiment ? Bah pourquoi pas ? Faut juste le vouloir. Mais surtout, il faut inclure les minorités dans les réflexions. Ne décidez pas pour eux, car jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux les premiers concernés, et eux qui savent ce qu'il faudrait changer en premier lieu pour leur faciliter la vie. Pour compléter cette troisième chronique, je vais vous proposer quelques pistes si vous voulez participer à rendre la société plus inclusive. D'abord, je voudrais vous parler d'une pétition lancée pour améliorer les moyens de transport afin de favoriser l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Cette pétition vise à demander à ce que les transports soient mis en place pour les personnes en situation de handicap qui ont la possibilité de travailler. Elle demande aussi à créer un forfait pour les transports de première nécessité ou pour accéder à des lieux permettant l'inclusion et le maintien de liens sociaux. Voilà, si vous souhaitez plus de renseignements sur cette pétition, vous pouvez aller sur le site mesopinions.com, mesopinions au pluriel.com, et chercher la pétition « Améliorer les moyens de transport pour l'inclusion et l'autonomie des personnes handicapées ». Autre exemple. Aujourd'hui en France, certains pensent que nous sommes gouvernés par quelques personnes élitistes qui décident de tout sans consulter la population et misent tout sur une communication aux petits oignons, faite pour noyer les non-initiés et continuer à gouverner tranquillement en étant payés grassement. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas dans leur intérêt de changer, mais je ne vais pas rentrer dans le débat pour savoir si vous avez raison ou tort. Je n'ai pas de problème avec la politique de manière générale. En revanche, je pense que la société ne sera pas vraiment inclusive tant que les politiques ne feront pas évoluer ne serait-ce que leur discours. Pour que notre démocratie soit réellement accessible à tous, il faut que les discours soient entendables et compréhensibles de tous. Cet enjeu autour de la rhétorique est donc fondamental pour avoir une vraie société inclusive au niveau démocratique. Autre exemple encore, mais plus concret cette fois. Pendant mes études, nous avons eu un dossier à faire pour nous entraîner à évaluer l'accessibilité des logements, apprendre à repérer leurs défauts et proposer les aménagements nécessaires pour les rendre réellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'idée était surtout de voir si les logements visités respectaient les normes d'accessibilité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je pourrais vous citer pêle-mêle la largeur des portes, l'absence de marge dans le logement, une douche à l'italienne plutôt qu'une baignoire, etc. Avec mon groupe, nous avions été envoyés dans une cité de Tours, où j'ai fait mes études, pour visiter des appartements dans un immeuble de logements sociaux. Franchement, on a eu beau chercher, hein, mais les appartes étaient super accessibles. À part quelques curiosités architecturales, comme 2-3 marches pour accéder aux toilettes de la salle de bain, oui. Franchement, à part ça, c'était nickel. Et l'immeuble avait plusieurs dizaines d'années, hein. Bon, après, le bailleur social en charge du bâtiment avait mené une campagne massive de mise aux normes des appartements, donc ça peut aider. Bon, mais où est le problème, vous allez me dire? Eh ben, vous savez quoi? Dans cet immeuble aux appartements ultra accessibles, dans lequel n'importe quelle personne en fauteuil roulant aurait pu vivre, il y avait un problème. L'ascenseur. Bah quoi, c'est bien, non? Et non, il y avait un ascenseur, ok. Mais il n'était pas assez large pour faire rentrer un fauteuil roulant, même le plus standard. Dommage. Et ben pour un pauvre ascenseur qui n'était pas assez large, l'ensemble des appartes qui étaient dans les étages devenait inaccessible, laissant aux personnes à mobilité réduite les quelques appartements au rez-de-chaussée uniquement. Pas très inclusif ça, hein. Dernier exemple. Depuis 2019, le don du sang est ouvert aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais à condition que ceux-ci aient respecté une abstinence sexuelle complète de 4 mois avant le don. Avant 2019, c'était pas 4 mois, mais 1 an, rendez-vous compte. Pour un homme hétéro, c'est pas pareil, car il lui est impossible de donner son sang seulement s'il a eu des relations sexuelles, même protégées, avec plus d'un ou une partenaire au cours des 4 derniers mois. Donc concrètement, un homme qui vit avec son compagnon dans un couple stable ne peut donner son sang que s'il n'a eu aucune relation sexuelle avec son compagnon au cours des 4 derniers mois. Alors oui, un homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes aurait 200 fois plus de risques d'être exposé au VIH qu'un homme ayant des rapports hétéros. Mais dans le cadre d'une relation stable, ce chiffre n'a plus vraiment de sens. L'avantage, c'est que cette distinction ne sera plus en vigueur pour très longtemps. Car le 1er janvier prochain, en 2022, un amendement doit abolir cette obligation d'abstinence complète. Les hommes homosexuels seront donc soumis aux mêmes critères de sélection que les hétéros. Qu'on soit homo ou hétéro, on pourra donner notre sang à condition de ne pas avoir eu plus d'un ou une partenaire différent dans les 4 derniers mois. Et c'est tout. Bref, là c'était un exemple de quelque chose qui, semble-t-il, va changer. On le sait. Mais il y a tellement d'autres situations qui sont nébuleuses, dans une impasse, voire inconnues du grand public. Vous l'avez compris, pour créer une vraie société inclusive, il faut agir sur l'environnement au sens large. L'environnement physique, matériel, social, humain, culturel, financier et, on l'a vu, politique. Parce qu'un environnement accessible au sens large est aujourd'hui une exception, une faveur au lieu d'être un droit et une normalité. Alors, changez votre manière de penser. Changez votre regard sur la société et les minorités. Aidez-les à avoir accès à toute activité. Notre société ne pourra que mieux se porter. Pour finir cette chronique sur l'inclusion, j'aimerais vous parler d'une initiative très sympa qui se déroule à Blois, puisque je reçois aujourd'hui Didier et David, qui nous viennent du rugby club de Blois, et qui viennent notamment nous parler de la section rugby à 5 santé. Bonjour messieurs.
Eh bien bonjour à tous.
Donc vous nous venez de la section, vous nous venez nous parler de la section rugby à 5 santé du club de rugby, c'est ça ?
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est concrètement que cette section, dites-moi.
Donc la section de rugby à 5 santé, c'est une nouvelle section qui a été créée cette année. C'est du rugby sans contact, qui est issu du rugby à 5 classique, qui est une nouvelle discipline qui a à peu près une dizaine d'années aujourd'hui, donc assez récente quand même, où on a enlevé les plaquages, on a allégé les règles, Et donc, en personne, on accueille les hommes et femmes. Donc, c'est un sport mixte.
OK.
Issu de cette pratique-là, on a souhaité faire évoluer et ouvrir encore un petit peu plus large. Et on s'est aperçu qu'on pouvait accueillir, en adaptant l'entraînement, des personnes atteintes de certaines pathologies.
D'accord.
Ou des personnes souhaitant revenir au sport ou remettre un pied dans le sport, soit des personnes en maladie longue durée.
D'accord, ok. Donc là, concrètement, vous avez quel public là actuellement dans votre section, votre club? Vous avez combien d'adhérents? Vous avez quel profil finalement? Vous êtes nombreux?
On est une quinzaine.
D'accord.
Il y a donc des hommes et des femmes. Il y a des... Moi, je vois des... On a une personne qui doit avoir 40 ans, qui est sourd-muet.
Ok.
On a des personnes qui sont un peu obèses.
D'accord.
Et qui veulent faire du sport. Ce qui est intéressant dans le rugby à 5 santé, c'est que c'est un sport collectif. Donc on est plus sur du, on est aussi sur du sport et sur du ludique. Mmh. On a une dame par exemple qui fait du tennis, mais qui a beaucoup mal aux genoux et qui et donc elle veut faire du sport, mais elle sait pas, elle veut pas aller plus loin que ce que ses genoux lui permettent. Mmh. Et il y a par exemple moi aussi, moi je suis dirigeant au RCB. D'accord. Et je suis un ancien joueur de rugby. Et donc ça fait 40 ans, enfin 30 ans que je n'ai pas pratiqué. Et ce que je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Est-ce que je suis capable à 65 ans de faire ce que ces gens-là font? Et puis j'ai essayé, j'ai dit à David, pourquoi pas moi? Ouais. Il m'a dit, mais bien sûr. Et voilà, et puis et c'est bien, et c'est à mon niveau.
Et avec cette section santé du coup qui est adaptée, je suppose, voilà, par rapport au public assez divers que vous avez l'air d'avoir.
C'est ça.
On est sur une pratique donc en toucher, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, on est sur une pratique de rugby au toucher, avec des règles ultra simplifiées,
ouais.
Des exercices vraiment adaptés à chaque pathologie quand il y en a.
Mmh.
Parce que si on a quelqu'un qu'on accueille qui s'est fait opérer du cœur, on ne va pas pouvoir faire n'importe quel mouvement, n'importe quel type d'accélération. Si c'est quelqu'un qui est sur un retour de cancer du sein, notamment chez les femmes, où on sait que la pratique du geste de la passe en arrière du rugby augmente de 40% en fait son retour à la normale chez la femme. Donc on a des gros progrès qui ont été scientifiquement prouvés, que cette pratique-là, chez certaines pathologies, augmente la guérison et surtout augmente l'absence de récidive en fait.
Ok, super.
Donc on a des études maintenant sur lesquelles on s'appuie pour ça. Et donc on adapte vraiment l'entraînement par rapport à ça. Donc on fait des exercices plus globaux quand on a un panel de personnes différentes,
mmh.
Et un peu plus spécifique pour chacun, suivant les pathologies de chacun.
Ok, et donc concrètement, pour s'inscrire en fait à ce sport de rugby à 5 santé, est-ce qu'il faut une prescription médicale? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut... les gens sont relayés par leur médecin? Est-ce qu'ils ont connu votre club par le bouche à oreille ou d'autres moyens? Ce qui font qu'ils sont venus après chez vous? Comment ça se passe? Et comment, si des gens qui nous écoutent sont intéressés pour vous rejoindre, comment ils peuvent faire alors?
Ils peuvent venir le samedi matin à 10h.
D'accord.
Puisque c'est là qu'il y a la séance d'entraînement qui dure une heure. C'est tous les samedis, sauf cas exceptionnel, mais c'est tous les samedis matin.
Mm-hmm.
Ils viennent, ils regardent. Et puis ensuite, effectivement, pour pratiquer, il faut
un certificat médical.
Un certificat médical.
Ouais. Ok, ça
marche. On a deux types. On va avoir deux types de personnes. Soit des personnes qui sont sans prescription médicale. Et là, effectivement, ils viennent, ils peuvent s'inscrire comme ça avec un certificat médical classique, mmh. Ou alors on accueille également des personnes où c'est le médecin qui nous les envoie avec une ordonnance,
okay.
Qui nous dit mon patient, je souhaiterais qu'il fasse 6 mois de sport. D'accord. Et donc là, on travaille en lien avec ce médecin-là. Si c'est une maladie cardiaque, avec le cardiologue. Si c'est on a besoin de travailler avec un nutritionniste, ce sera un nutritionniste par rapport à s'il y a du surpoids.
Mmh.
Donc on travaille comme ça. Donc aujourd'hui, on commence. Dans notre public, on n'a pas encore ce genre de personnes-là, de sport sur ordonnance, concrètement. C'est beaucoup de gens qui viennent et qui veulent reprendre l'activité ou conserver une activité minimum. Donc, je dirais que c'est plus des gens sédentaires.
Mm-hmm.
Mais on travaille là-dessus. On va travailler avec l'hôpital un petit peu. On va travailler avec Terrae.
Ouais.
On commence à tisser des liens un petit peu sur le Blaisois.
Ouais, d'accord. Voilà. Et surtout, je suppose, en sortie de Covid, entre guillemets, même si en ce moment on est un petit peu de nouveau embêté, mais en sortie de Covid, je suppose que ça a redonné aussi le goût au sport aux gens, redonné envie de sortir aux gens, surtout avec cet esprit collectif, comme tu le disais, Didier.
C'est ça, c'est du sport collectif à l'extérieur en plus. Donc ça fait du bien à la tête, ça. Ça aère bien. En plus, on a eu des beaux journées, des belles journées le samedi matin, là encore jusqu'à récemment. Donc c'est vraiment très très sympa. Et le côté collectif, ça fait qu'on est en relation, sans aucune ambition de faire du beau jeu, mais quand même de jouer et de respecter l'autre, quelle que soit sa capacité à jouer ou à faire des efforts physiques. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'être ensemble et d'arriver à faire des choses.
Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de faire du sport. Il n'y a pas derrière, ça ne donne pas lieu à des compétitions, des choses comme ça.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et ça reste un des seuls sports collectifs en sport santé. Aujourd'hui, on peut trouver de la marche nordique, de la natation, pas mal de petits différents sports. Mais en sport collectif, ça reste un des seuls sports co. Donc, ce phénomène d'équipe, socialement et mentalement, il est important aussi pour les gens. Donc, on travaille l'aspect sportif parce qu'on grappille sur l'aspect cardiovasculaire et on augmente la capacité pulmonaire et on sait le quantifier, ça, aujourd'hui. Mais l'aspect mental et cohésion et juste de faire partie d'un groupe et que tout le monde est là pour la même chose, en fait, parce que du coup, il y a beaucoup moins de tabous au sein de ce groupe. Ça, on ne sait pas le mesurer, mais on sait que c'est un bénéfice énorme, en fait.
Bon, bah super. Ouais. Et est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler peut-être plus largement du club? Est-ce qu'il y a des initiatives, peut-être des événements bientôt, alors en lien avec le rugby à 5 santé ou autre?
C'est un club de rugby qui, aujourd'hui, qui marche bien, parce qu'on a l'équipe première qui est invaincue, donc on en est très fiers. Ouais. Mais c'est pas que ça, un club de rugby, c'est une école de rugby, c'est des moins de 16, des moins de 18, c'est aussi du rugby à 5 pour des mixtes en plus de 35 ans. Ce sont des équipes féminines aussi, le rugby se développe beaucoup sur le féminin. Ce qu'on a créé aussi cette année, c'est une section baby rugby.
Donc
maintenant, on accueille les enfants à partir de 3 ans. Et on a une section qui a très très bien démarré depuis septembre. Et donc l'événement là qui est à venir et dont nous sommes très très fiers, c'est le Festival national du rugby à 5 qui va avoir lieu le 25 et 26 juin. Donc on est déjà en train de le préparer. Où on va accueillir toutes les meilleures équipes de rugby à 5 de toute la France à Blois.
D'accord. Un bel événement donc à venir à Blois au mois de juin. Bon, c'est certes dans quelques mois, mais au moins ça nous augure quand même de très bons présages. Et de ce que vous me dites là, on est quand même vraiment sur un club ultra inclusif, parce que ça soit donc avec cette section rugby santé, la section baby rugby, comme quoi on peut avoir de l'inclusion par le sport, mais aussi qui permettent d'autres choses que juste faire du sport.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vrai que là-dessus, la politique du club, c'est d'essayer de s'ouvrir le plus possible et le plus largement possible à des publics divers, en fait. Et c'est également un souhait de la fédération au national. Et nous, on est en plein dedans. Ouais.
Bon, ouais. Bah, super.
Oui, l'idée, c'est de faire venir des jeunes au rugby, au sport en général, mais au rugby en particulier, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau social, quel que soit le quartier dans lequel ils vivent, au contraire.
Eh ben, c'est une superbe initiative, avec donc, je rappelle, en point d'orgue, entre guillemets, ce championnat de France de rugby à 5 qui va se dérouler à Blois, et donc pendant 2 ans de suite, c'est ça, je crois.
C'est ça, on l'a pour 2 ans, effectivement.
Super.
Donc, c'est un très bel événement, ouais.
Donc, il y aura du rugby à 5 santé.
Exactement.
Super, et ce serait pourquoi pas une belle occasion de découvrir ce sport et de vous inscrire, pourquoi pas, pour la saison prochaine. Les inscriptions sont toujours possibles pour cette année ?
Oui, bien sûr. Oui. Voilà, rien n'est fermé, au contraire.
Super.
Au contraire.
Et si vous souhaitez reprendre le sport, si vous souhaitez vous intéresser au rugby, mais que vous ne saviez pas trop par quel biais passer, etc., sachez que le RCB a donc cette section de rugby à 5 santé. N'hésitez pas, c'est vraiment une très belle initiative de votre part et de votre club. Donc je tiens vraiment à la souligner. Un club inclusif quand même voilà, mérite d'être mis en avant au sein donc, de Studio ZEF qui voilà, a des valeurs communes avec votre club.
Eh bien, merci beaucoup, avec grand plaisir en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous messieurs et puis bah, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous qui nous écoutez. Merci à vous d'être venu nous parler de votre initiative et puis à très bientôt sur les antennes de Studio ZEF.
Merci à tous, au revoir.
Voilà, c'était ma dernière émission de l'année. On se retrouve en janvier pour la suite de ce programme. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira toujours autant. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année, en famille ou entre amis. Et surtout, prenez soin de vous.